Alep, de l'éducation populaire à Blois.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission de l'Alep de l'éducation populaire à Blois pour le mois de décembre. Donc notre programmation culturelle pour le mois de décembre, on a plein de choses. On commence avec le samedi 2 décembre un spectacle qui s'appelle Jeanne Moreau l'Insoumise avec Laura Desprin et Renaud Espinas. On va avoir Laura Desprin tout à l'heure au téléphone comme invitée. Ensuite, le jeudi 7 décembre, on va avoir une conférence gesticulée qui s'appelle « L'histoire cachée des femmes. Qui serions-nous devenues si nous avions su ?» par Julie Babamy de Souza. C'est pareil, on va l'avoir au téléphone. Et le lendemain, vendredi 8 décembre, on va avoir un concert du groupe « Le Lépidoptère ». Et sur le plateau, on a avec nous Benoît Chrétien qui est là. Bonsoir Benoît.
Bonsoir Mélanie.
Mais dans le groupe, tu n'es pas tout seul. Qui sont tes compères ?
Alors oui, effectivement, je ne suis pas tout seul dans le groupe. Mais au départ, le Lépidoptère, c'est un trio. Donc basse, guitare, batterie. Et depuis peu, on a eu la chance de pouvoir inviter de nouveau. Donc on a un vibraphoniste, c'est David Fourdrinois, donc c'est un vieux copain de Normandie à l'époque où j'habitais là-bas. On ne s'est pas vraiment lâché, donc dès qu'on a l'occasion, on refait un peu de musique ensemble. Donc là, il est dans le coin au mois de décembre, et du coup, il fait le concert avec nous. C'est un super musicien, vibraphoniste, qui vient de La Réunion. Donc c'est pas toujours évident de se voir.
Bah oui. Alors c'est ou alors tu nous expliqueras peut-être après, mais qu'est-ce que c'est un vibraphone ?
Alors un vibraphone, bah pour résumer, c'est un gros xylophone, quoi. Enfin le xylophone c'est en bois, ouais. Le vibraphone c'est des lamelles en métal.
D'accord.
Voilà, c'est un gros métallophone, quoi.
Ok, ça voilà. Marche.
Et donc un très bel instrument et il le joue très bien. Et on a un cinquième, donc, et pas des moindres, c'est Rémi Delangle à la clarinette et au corde bassée. Alors là, il va se tester au corde bassée, qui est c'est une sorte de clarinette basse, un petit peu. Ça peut s'apparenter à ça, visuellement, j'ai envie de dire, mais c'est un petit peu plus aigu. Et donc Rémi, que peut-être certains vont connaître, parce que c'est le... Pour situer un petit peu, c'est la première clarinette de l'orchestre de la Garde républicaine.
Donc,
c'est un très très bon musicien, il est super. Et du coup, on a la chance de lui plaire d'une certaine manière. Et donc, il joue avec nous depuis un certain temps et c'est vraiment super. Donc
très
là,
bien.
On a deux nouvelles recrues terribles en quintette maintenant, le Lépidoptère. Donc toujours à géométrie variable de toute façon, parce qu'on peut refaire des concerts à 4 ou à 3, ça peut toujours être possible, mais là, ce sera à 5. Voilà, le grand soir.
Quoi. Donc, les trois du début, j'ai envie de dire, donc c'est toi qui es... je vois que tu as plusieurs instruments, c'est ça ?
Oui. Alors là, pour ce concert-là, je vais principalement jouer de la guitare électrique. Okay. et je vais faire un morceau au banjo aussi.
Ok. Sinon, tu joues aussi de la guimbarde et de la
basse. Oui, il y aura de la guimbarde aussi, un petit peu. Peut-être, oui, voilà. Il y aura deux guitares, une guitare acoustique 12 cordes. Et puis, il y a un morceau qu'on ne fera pas, mais je fais aussi de la basse. J'avais écrit un morceau pour deux basses et batterie.
Ok.
À l'époque où on était en trio, donc celui-ci c'est d'un registre un petit peu plus expérimental, donc on va pas le jouer à ce concert-là. Alors, ce concert-là, on se concentre vraiment sur le style ethio jazz, principalement quoi.
Ok. Alors avant que tu nous expliques ce que c'est ce style, est-ce que tu peux nous dire qui sont les deux autres musiciens ?
Oui. Alors à la basse, on a Julien Figuera,
okay.
Donc un bassiste de la région de Vendôme.
Très bien.
Voilà, avec qui j'ai commencé vraiment toute l'aventure, c'est vraiment avec lui. On s'est rencontrés pour faire au départ de la musique improvisée, expérimentale. Et puis ça a vraiment collé, en fait, on ne s'est jamais lâché. Et puis au fur et à mesure, j'enchaîne sans transition sur le batteur, Guillaume Lelay. Qui est un batteur blésois que certains connaissent, j'imagine. Et donc il est venu nous rejoindre, donc on a fait un trio autour de cette fameuse musique improvisée expérimentale qu'on a, on avait écrit des pièces à partir de nos improvisations. Et on a sorti un disque d'ailleurs en duo au départ, et c'est à partir de ce disque-là qu'on a demandé à Guillaume de venir nous rejoindre à la batterie. Mmh. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à découvrir les tuyaux de jazz il y a quelques années. C'est un style qui m'a complètement retourné. En fait, j'ai vraiment adoré ce style de musique. Et j'ai proposé aux gars, éventuellement, de commencer à travailler sur des standards un peu du style pour voir un peu ce que ça donnait. Et puis, ils ont vachement accroché. Et donc, on a continué un petit peu dans ce sens-là. J'ai commencé à écrire des compositions. Et puis maintenant, ça roule comme ça, en fait. On écrit dans le style, et puis on garde les standards, bien sûr.
Parce que vous aviez déjà un ou des groupes avant de vous mettre à faire de l'étude de jazz qui ne s'appelait pas le Lépidoptère, c'est ça ?
Alors en fait, ça s'est toujours appelé
ça
le Lépidoptère.
Ça s'est toujours appelé le Lépidoptère, mais là, peut-être pour cet album-là ou en ce moment, vous faites de l'étude de jazz.
Voilà, c'est ça. On n'utilise pas beaucoup le terme, mais on dit que le projet, c'est le Lépidoptère présente Éthioptère, en fait.
Ah oui.
Voilà. Donc c'est vraiment un chapitre de notre histoire, parce que c'est le troisième chapitre officiellement. Et on s'appelle le Lépidoptère parce qu'au départ, on a écrit avec Julien, c'est le disque qu'on a sorti, on a écrit en musique la transformation de la chenille en papillon.
Très bien.
On est parti de cette métamorphose-là, ouais. et puis on a écrit trois quarts d'heure de musique qu'on a joué quelques fois en concert. Donc là, c'était vraiment dans un registre très expérimental. Et puis voilà, c'est pour ça qu'on s'appelle le Lépidoptère.
Très bien, ça marche. Et donc il y a des instruments, il n'y a pas de voix par contre ?
Pas vraiment.
Pas vraiment.
Pas vraiment, ça peut.
Ouais.
Parce que moi je suis chanteur aussi, donc okay. Je pourrais très bien donner un peu de voix, mais pas à ce concert-là, il n'y aura peut-être pas. Ou
d'accord.
Alors de manière complètement inattendue.
Voilà, c'est ça. Et donc comment tu décrirais l'Ethio Jazz ?
L'Ethio Jazz, pour faire simple, c'est le mélange entre la musique traditionnelle éthiopienne et le jazz américain qui a été importé dans les années 50-60 là-bas,
ouais.
En Éthiopie. Et donc, il y a des musiciens qui se sont emparés un peu de ça et qui ont créé ce style un peu hybride. En particulier, le musicien qui est vibraphoniste, d'ailleurs aussi percussionniste et pianiste, Mulatu Astatke.
Okay.
Qui est une grande figure de l'Ethio Jazz, qui est très célèbre, qui est toujours vivant d'ailleurs, il est très vieux, mais il est toujours là. Et du coup, voilà, c'est lui qui a lancé un petit peu le mouvement en Éthiopie, et puis il a fait des petits tout au long de sa carrière. C'est un style qui s'est un petit peu perdu apparemment pendant un certain temps, et que moi j'ai redécouvert par le film Broken Flowers de Jim Jarmusch. Le film, j'ai pas trouvé excellent, mais par contre je suis resté bloqué sur la musique. Donc du coup, c'est là que j'ai découvert Mulatu Astatke, et après je me suis renseigné. Il y a toute une collection de disques qui a été ressortie il y a des années. C'est un collectage en fait de toute la musique éthiopienne, et donc l'Ethio Jazz fait partie de cette collection. Et voilà, moi je me suis plongé un peu là-dedans, et il y a des tas de choses super. Donc, ça s'appelle les Éthiopiques, pour ceux qui voudraient découvrir. Il y a 30 CD, en fait.
Okay.
C'est vraiment une grosse, grosse collection, un gros collectage de musique. Et voilà, tout est très, très bien écouté, quoi.
Vous êtes nombreux en France à faire de ce style-là ou pas tant ?
Oui, c'est un style, oui, il y a quelques groupes en France. Bon, c'est un style international, en fait, qui est joué... Mais c'est un style qui est très associé. Il y a une boîte de production anglaise qui s'appelle le Boudos quelque chose. En fait, il y a le groupe qui s'appelle le Boudos Band,
okay.
Que je trouve vraiment excellent. Mais alors, c'est une musique qui est très associée au cuivre, en fait. Il y a beaucoup de groupes qui jouent avec des sections, trompettes, saxophones, etc. Donc, c'est une musique qui est très associée à ça. C'est beaucoup de soufflant. Nous, le Lépidoptère, au départ, on est en trio cordes, guitare et basse. Donc, on a donné une petite couleur un petit peu différente de ce qu'on peut entendre de l'Ethio Jazz. Et donc, avec la clarinette, ça ramène évidemment ce petit côté soufflant. Mais on reste un petit peu à part de ça. Et la plupart des groupes, que ce soit français ou ailleurs, ils ont quand même beaucoup plus de cuivre. Donc, voilà, c'est une musique qui est associée à ça quand même, avec
okay.
des grandes fresques cuivrées, soufflées.
Et donc, vous, vos actualités, à part le concert à l'Alep le 8 décembre, ça va être quoi ?
Alors, avec le Lépidoptère, vu l'incertitude de la formation, vu que y en a, au niveau des disponibilités, c'est pas toujours évident. Là, pour l'instant, on n'a pas énormément d'actualité, mais on comptait un peu sur ce concert-là pour se faire un peu de matière visuelle, un petit peu, peut-être quelques vidéos, quelques photos. Et puis, vu que cette formule, elle est un peu neuve, en fait, ouais. En quintette, on va faire les outils comme nécessaire pour lancer.
Ouais, ouais.
Mais de toute façon, c'est, à mon avis, ce concert-là, c'est le premier d'une série, ouais, ça c'est sûr.
On a un peu la primeur à l'Alep, alors, du
Lépidoptère. Du quintet, oui,
du quintet,
c'est vrai.
Ouais. Ouais.
On l'a testé en janvier dernier, mais c'était vraiment un essai comme ça, qui était très très bien d'ailleurs. On était 6 d'ailleurs, il y avait un guitariste, mais lui il est parti à La Réunion d'ailleurs aussi. Et donc du coup, on reste en quintet, mais ça, cette formule-là, c'est vraiment... C'est tout neuf.
Et ben, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse écouter un de vos morceaux qui s'appelle
Yeker Messou. Donc c'est la reprise d'un standard de Moulatou Astatke. C'est peut-être le morceau le plus connu de lui, en fait, je pense.
Bon, ben, ça nous permet de le découvrir lui aussi, alors. Ouais. Et ben, on écoute. Essayer d'appeler Laura Desprin qui va nous parler de Jeanne Moreau l'Insoumise, le spectacle du 2 décembre.
Allô ?
Bonsoir Laura.
Bonsoir.
Alors, on est bien sur Studio Zef, c'est Mélanie de l'Alep au téléphone. Alors, on s'appelle ce soir pour parler du spectacle qui aura lieu le 2 décembre à l'Alep, qui s'appelle Jeanne Moreau l'Insoumise. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler du projet, puis surtout avec qui vous le faites ?
Alors, ce projet est né en 2018 plus précisément. Il est né d'un désir de Renaud Espinasse, donc qui est chanteur et qui joue de l'orgue de Barbarie. Il est né de son désir et du mien, puisque nous avons en fait travaillé ensemble sur une première version qui a été donnée au Douve d'Onzain pour une soirée dédiée à Jeanne Moreau et Brigitte Bardot, puisque dans la deuxième partie de la soirée, il y avait la projection du film Viva Maria. Et donc Renaud m'a proposé de participer à ça avec lui et j'ai écrit une première petite forme. Et puis comme je suis une grande admiratrice de Jeanne Moreau, ensuite j'ai voulu aller un petit peu plus loin et j'ai cherché vraiment un maximum d'anecdotes, de choses intéressantes, touchantes, drôles à raconter sur elle. Et au final, ça a évolué et finalement j'ai pris le rôle. Au départ, j'étais un petit peu, on va dire, à l'extérieur dans cette première version. Et puis ensuite, je suis devenue Jeanne, le temps du spectacle.
Et donc, pourquoi Jeanne Moreau ? Pourquoi cette admiration ? Est-ce que vous pouvez nous révéler peut-être une anecdote marquante sur Jeanne Moreau ?
Est-ce que je peux vous révéler une anecdote marquante sur Jeanne Moreau ? Il y en a beaucoup, en fait.
Oui.
Moi, ce que j'aime en général, d'une manière générale, c'est son jeu d'actrice, bien entendu. C'était une formidable actrice, mais c'est aussi sa liberté, son goût de la liberté. Et puis son non-conformisme, qui c'est une femme qui maintenant serait plus dans la norme, mais qui a vécu sa jeunesse dans les années 50-60, et son premier coup d'éclat, ça a été de quitter la Comédie française. Elle avait 18 ou 19 ans et elle s'ennuyait. Donc elle est partie, voilà, elle est partie en tournée. Et pas n'importe quelle tournée, puisqu'elle a créé avec Jean Villard le Festival d'Avignon. Donc elle était toujours au bon endroit au bon moment, malgré tout.
Ah oui, c'est elle, elle a fait partie
alors,
des créateurs
créatrice,
et créatrices.
Alors, c'est pas elle la créatrice, en fait. Elle a fait partie de l'équipe du départ, avec Gérard Philippe, Philippe Noiret aussi, Maria Cazares. Elle était dans cette équipe-là, et elle a fait plusieurs années de suite le Festival d'Avignon, qui à l'époque était une aventure, il n'y avait rien, quoi. Il y avait juste le Palais des Papes, et c'est tout.
Donc voilà, c'est pour ça cette admiration pour cette femme.
Oui, tout à fait, oui, qui est vraiment une actrice hors norme déjà, et puis de toute façon une personnalité hors norme à la base par sa façon de vivre et de voir la vie. Et ses chansons reflètent vraiment cet aspect très libre d'elle, puisque c'est pas elle qui a écrit directement, mais ses paroliers, dont Rezvani, qui lui a écrit beaucoup de chansons, la connaissait très bien. Et en fait, la chanson de Jules et Jim, Le Tourbillon, est une chanson qui a été écrite pour elle au départ. Mmh.
Et donc, ce spectacle, le contenu, ça va être de la musique, bien sûr, mais aussi, il va être théâtralisé.
Alors, à la base, moi, je suis comédienne et chanteuse, parce que j'ai fait l'école de la Comédie de Saint-Étienne. Renaud, lui, est chanteur et musicien, mais depuis un petit moment, il joue également, hein, puisqu'il a joué dans Le Bataillon des Femmes Perdues, et également dans Lettre de Guerre, qu'on a monté il n'y a pas longtemps. Donc, et c'est un excellent interprète. Donc, en fait, on joue tous les deux dans ce spectacle. Moi, je prends le rôle de Jeanne Moreau, et lui raconte aussi son histoire en même temps que moi, mais lui avec la distance du narrateur. Voilà. Et on chante, bien sûr, tous les deux, des chansons, chacun notre tour, ou en duo. Et puis, donc, un répertoire très varié, uniquement composé de chansons de Jeanne, mais elle avait un répertoire elle-même très varié, qui était à la fois poétique, et puis en même temps un peu osé, par moments, pour l'époque, un peu coquin, et quelquefois très drôle.
Et donc, vous avez décidé d'une période de sa carrière, ou vous retracez un peu chronologiquement son parcours ?
On retrace toute sa carrière, en fait. Hein. On parle même un peu de son enfance, parce que je suis partie de témoignages, de choses que j'ai pu trouver dans des livres ou dans des articles divers. Hein. Donc, en fait, c'est un petit peu à bâton rompu, mais on suit quand même une certaine chronologie.
Est-ce que ce spectacle-là, il va être joué aussi ailleurs ? Il a été joué ailleurs, vous avez parlé de Sambin, c'est ça ?
Il a été joué ailleurs, oui. Et plusieurs fois, en fait. Hein, ouais. Donc, il tourne depuis un petit moment. Il a été joué, donc c'était à la première, enfin la première version, c'était à Anvers, au Douve, mais il a joué également pour Délire d'été, il a joué pour Festilésime, Festijardin, enfin il a joué un petit peu partout dans la région centre.
Et alors les retours des gens ?
Toujours enthousiaste. Ouais. Et puis surtout touché, parce que bon, bah, il y en a qui connaissent Jeanne Moreau, mais il y en a qui la connaissent pas du tout et qui découvrent vraiment une grande figure et de très belles chansons. Voilà. Et je pense que bon, ça tient aussi à l'interprétation, c'est-à-dire qu'on a la conviction et vraiment le désir de faire passer quelque chose à propos de cette femme hors norme, et je pense que ça se ressent, cet enthousiasme. Et même quand on connaît pas Jeanne Moreau, bon, on m'a dit que ça donnait vraiment envie de la découvrir et de regarder ses films, donc je crois que ça fonctionne.
Mais oui, tout à fait. Et donc vous, est-ce que vous avez des actualités, et peut-être du côté de Renaud aussi, je sais pas si vous savez un peu, mais est-ce que vous voulez profiter de Studio Zef là pour
alors,
dire un
gentil,
peu quelles
merci.
Sont vos actualités ?
Alors moi en ce moment j'ai des actualités d'autrice plus que de comédienne, oui. Puisque je suis en résidence d'écriture de 3 mois en Bourgogne-Franche-Comté. Puis là en ce moment je suis en Corse où je travaille à un projet autour d'une de mes pièces. Et ensuite, je serai à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon au printemps pour écrire une autre pièce. Pour ce qui est de Renaud et de nos aventures communes, donc Lettres de guerre, une pièce qu'on a créée cet été avec une de mes anciennes élèves du conservatoire, Anaëlle Moronval, et écrite par son père, donc Luc Moronval. Elle va rejouer au mois de janvier et elle part un petit peu pour une tournée, donc on est très contents. Après, ça va être plutôt une date réservée aux scolaires, puisque c'est un spectacle qui a été remarqué par les enseignants de collège, puisqu'on parle de quelque chose qui est peu exploité au théâtre, la guerre 14-18. Donc, ça les intéresse, parce que c'est dans le programme. Et voilà, le spectacle est porteur. Donc voilà, beaucoup de choses. Moi, en ce moment, je suis beaucoup en déplacement. Du coup, je voyage
très peu à Blois.
Très peu à Blois. Là, je vais rentrer pour 2-3 mois. Et puis ensuite, je repars. Donc là, ça va être la pause. Parce que depuis juillet, je suis pratiquement toujours en vadrouille. Sauf au mois d'août où j'ai travaillé avec Nathalie Kignessic sur un spectacle pour la compagnie d'intruses. Et donc, on a aussi un grand projet qui est un projet récurrent puisque ça va être la troisième année. C'est le festival Vite au théâtre, donc qui est porté par 6 compagnies blésoises et que les Blésois commencent à connaître, j'imagine. C'est là qu'on a monté notre première création collective, le Bataillon des Femmes Perdues, que j'avais écrit. Et cette année, moi, je présente un spectacle donc que je viens de terminer d'écrire en Bourgogne. Donc, je présente un texte qui s'appelle Alali et qui va être joué par Claudie Olivier, qui fait partie de la compagnie Bodo Bodo et que vous avez peut-être vu dans La Duchesse. Et donc, ça sera toute la semaine sur fin février, début mars, donc la première semaine des vacances de février, que vous pourrez assister à tous ces spectacles et à la création collective qui va donc couronner cette semaine, qui sera le 3 mars à la Halle au Grain et qui s'appelle Saltimbanque.
Saltimbanque, super. Donc là, pour la pièce collective, il y a toutes les compagnies sont représentées, c'est ça ?
Toutes les compagnies sont représentées et c'est ça qui est beau, quoi. C'est qu'on a vraiment réussi à faire quelque chose tous ensemble et qu'on se retrouve toujours avec grand plaisir tous les ans. Alors c'est du travail quand même, hein. Préparer un festival, c'est vraiment beaucoup de travail, mais ça en vaut vraiment la peine parce que c'est une semaine formidable et le public qui nous rend visite est ravi de l'ambiance. Donc le festival lui-même se passe au théâtre Nicolas Pesquin, donc sur le site des provinces, et on reloue complètement le théâtre, en tout cas le hall du théâtre. Il y a un bar, il y a un truck food qui est là sur certains jours. Enfin bon, c'est une ambiance de fête, quoi, vraiment.
Eh ben c'est chouette, on sera au rendez-vous. Je pense que les Blésois et les Blésoises ont bien en tête depuis donc ça va faire, c'est ça, la troisième année
Au
théâtre. Super. Vite au théâtre,
c'est
non
formidable. C'est vite au théâtre.
Vite au théâtre, c'est pas vite, tous vite, au théâtre, vite vite. Super.
Donc une belle actualité et puis très content de venir à La Quinière, qui est un lieu que j'apprécie beaucoup. Je suis voisine en plus, hein, j'habite pas loin, donc je connais bien le quartier et ce sera avec grand plaisir.
Eh ben, on vous accueille avec grand plaisir aussi. Est-ce que vous voulez, pour terminer, qu'on écoute une musique de Jeanne Moreau ?
Eh bien, écoutez, oui, c'est une excellente idée.
Alors, laquelle ?
Ah, parce que vous avez la possibilité de nous en faire écouter plusieurs. Vous avez tout un répertoire autour de vous. Je pense que je vous imagine entourée de chansons de Jeanne Moreau.
Ah, Internet est formidable.
Ah ouais. Je vous propose de faire entendre à nos auditeurs le tourbillon, puisque ça leur rappellera. Je suis sûre qu'ils auront des images de Jeanne de cette façon, parce que c'est sa chanson la plus célèbre.
Eh ben, on écoute le tourbillon.
Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui, sitôt mangela, Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, ah là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue? Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux, on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.
C'était le tourbillon de la vie qui, comme l'a dit Laura, vous rappelle probablement très fort Jeanne Moreau, puisque c'est sa plus connue. Et maintenant, on va joindre par téléphone Julie Babamy de Souza, qui va nous parler de sa conférence gesticulée « L'histoire cachée des femmes, qui serions-nous devenues si nous avions su ?» qui sera donc à l'Alep jeudi 7 décembre à 19h. On l'appelle.
Allô ?
Oui, allô Julie ?
Oui.
Oui, bonjour, c'est Mélanie de l'Alep sur Studio
oui.
Zeph.
Oui.
Alors Julie, est-ce que tu peux d'abord te présenter à nous et aux auditeurs et auditrices?
Oui, alors je m'appelle Julie Babam de Souza, j'habite en Alsace et je suis en ce moment conférencière, formatrice, chercheuse et intervenante artistique. J'ai développé mon activité dans une coopérative d'activité et d'emploi et je travaille beaucoup dans des établissements scolaires et j'interviens dans différentes configurations dans toute la France.
D'accord. Là, ce que tu nous présentes, ce que tu vas venir nous présenter à l'ALEP, c'est une conférence gesticulée. Tu es déjà venue d'ailleurs, c'est pas la première fois, donc c'est pas ta première conférence gesticulée. Est-ce que tu veux bien nous représenter le format un peu et puis pourquoi tu as choisi toi ce format pour t'exprimer sur ces sujets-là?
Oui. Oui, très bonne question. Eh bien, j'ai choisi le format de conférence gesticulée pour la quatrième fois. Voilà, tu m'entends ?
Oui, oui, oui.
Donc je me suis formée en 2016 à Amiens avec un collectif d'éducation populaire et je suis là donc à la troisième conférence gesticulée donc sur l'histoire cachée des femmes. Et cette conférence, j'ai choisi ce format parce que c'est des outils et une méthode qui vient de l'éducation populaire et c'est un domaine dans lequel je gravite et j'agis depuis une vingtaine d'années. Donc pour moi, c'est un outil qui permet à la fois de donner la parole et de prendre la parole à des personnes qui se considèrent pas forcément sachants ou experts sur un sujet donné, mais qui, de par un vécu et une expérience précise, des expériences, peuvent justifier de ce qu'on appelle les savoirs chauds, c'est-à-dire les savoirs tirés du vécu, et les tresser avec ce qu'on appelle les savoirs froids, c'est-à-dire des savoirs qui ont été théorisés à travers différents supports. Donc pour moi, c'est ça qui fait que la conférence gesticulée et le format le plus adapté par rapport à une parole que j'ai envie et que j'ai besoin même viscéralement de porter aujourd'hui.
Et t'as l'impression que ça parle aux gens quand tu fais des conférences gesticulées devant un public, justement ce format?
Oui, ça parle parce qu'en fait, je parle à partir de mes tripes. Et donc, bah, il y a de l'émotion, et tout en ayant aussi des savoirs plus rationalisés, entre guillemets. Donc, bah, le public peut s'identifier à certaines situations que je vais décrire ou à certaines oppressions, hein, des fois même qui ont été vécues par les personnes du public ou par des personnes qu'ils ou elles connaissent. Et c'est ça qui fait pour moi la conférence gesticulée, y compris quand je vais voir celle de mes collègues, et un format que je trouve à la fois super percutant et pertinent parce que bah, ça permet aussi d'apprendre à connaître des personnes et des sujets autrement que par bah, des conférences plus. Bah, dire plus académique ou par des livres, des vidéos, par exemple.
Alors, là, c'est quoi l'histoire de cette conférence?
Alors, l'histoire qui a mené à cette conférence, tu veux dire?
Oui, moi, ouais.
Alors, c'est il y a eu plusieurs prises de conscience différentes. Donc ça, j'en parle tout au long de la conférence. Il y a eu une rencontre d'un collectif de femmes avec qui j'ai étudié l'ouvrage Éducation populaire et féministe. Puis il y a eu aussi le décès de ma grand-mère en 2019. Alors, un moment où en fait ça m'a fait prendre conscience que en fait je connaissais pas très bien son histoire. Et comme elle-même l'avait oublié, puisqu'elle est décédée avec la maladie d'Alzheimer, eh bien, j'ai compris que c'était vraiment important, comme je l'avais déjà entendu à plein d'endroits, que c'est important de savoir d'où on vient, pour savoir où on va. Et donc, ça a été un petit peu ces différentes rencontres et événements, même tragiques, qui ont été des espèces d'électrochocs qui m'ont fait me dire, bah, j'ai besoin en fait de mieux comprendre des choses, de mieux comprendre mon histoire individuelle, mais aussi notre histoire collective en tant que femme. Et c'est ça qui a fait que j'ai commencé à écrire cette conférence.
Et donc ça donne une conférence qui parle de ton histoire familiale, mais aussi c'est ça de l'histoire de femmes oubliées.
C'est ça. Ben, en fait, à travers cette histoire, j'essaie de entre guillemets, de rattraper les heures d'histoire qu'on n'a pas eues à l'école, au collège, au lycée ou à la fac, éventuellement, si on a pu y aller, des heures d'histoire que je n'ai jamais eues, parce qu'on m'a beaucoup parlé de Clovis, Clotaire, Charlemagne, Louis XIV, Louis XVI, etc., Napoléon aussi, mais par contre, on ne m'avait jamais parlé de reine Franck, on ne m'avait jamais parlé de femmes comme Hildegarde de Bingen qui ont créé un type de médecine équivalente à la médecine chinoise en Europe. Enfin, y a plein de femmes, de destins de femmes et de savoirs en fait qui ont été produits par des femmes qui n'ont jamais été transmis là, ben, moi, dans là où j'ai été et dans les ouvrages que j'ai utilisés aussi pour écrire cette conférence. Y a notamment l'autrice Titiou Lecoq que je cite parce que ben justement elle aussi elle a eu la surprise de découvrir grâce à d'autres historiennes qu'il y avait en fait tout un pan de l'histoire qui était oublié parce qu'il n'est pas raconté, il n'est pas transmis aujourd'hui dans encore de trop nombreuses institutions ou espaces académiques. Et donc pour moi, mon rôle, c'est vraiment de partager ce que je comprends en fait de cette histoire à travers les travaux de chercheuses et parfois chercheurs aussi, à la fois des historiennes, des sociologues, des anthropologues. Donc, dans ma conférence, je fais aussi une espèce de synthèse et de ce que j'ai pu découvrir et j'ai pas terminé hein, parce qu'il y a encore énormément de choses qui sont produites et qui sont encore à découvrir. Mais voilà, je fais déjà une synthèse de ce dont j'ai connaissance sur ben voilà une chronologie assez complète hein, de la préhistoire jusqu'à la période contemporaine.
Oui, tu pars de la préhistoire et tu viens jusqu'à vraiment nos jours là dans les années 2020 ou tu t'arrêtes un peu avant?
Oui, je viens jusqu'aux années 2020. Après, évidemment, cette conférence en 1h30 n'a pas vocation à être exhaustive. Hein. Ça, c'est sûr que je ne peux pas tout raconter, notamment là sur le dernier siècle, tellement il s'est passé de choses dans le monde entier. Et je fais plutôt un focus sur la France et les pays germaniques. Okay. En tout cas, ce qui se passe en Europe du Nord, parce qu'il y a vraiment des choses à dire pour tous les pays, pour toutes les époques. Et voilà, donc cette conférence, j'ai fait le choix pour l'instant de plutôt la cibler sur cet axe géographique. Mais même en ciblant cet axe, c'est impossible d'être exhaustif tellement il s'est passé de choses et il y aurait de choses à raconter. Donc moi, mon but avec cette conférence, c'est aussi de donner envie aux personnes de faire leurs propres recherches et d'aller voir en fait ce qui s'est passé en Amérique du Sud, en Afrique, en Chine, en Russie. Il s'est passé tellement de choses qui ont d'ailleurs inspiré aussi les Françaises qui ont été dans les luttes, notamment ce qui s'est passé en Russie à la période de Lénine au début du XXe siècle. Donc voilà, j'invite vraiment les gens qui ont envie à faire leur démarche de recherche.
Et comment tu as fait pour revenir jusqu'au paléolithique? Quels outils tu as utilisés pour... Est-ce qu'il y a de la matière?
Oui, alors en fait, il y a énormément de matière, même si effectivement, c'est un espace-temps très, très éloigné de nous. J'ai commencé en fait par découvrir les Vénus. Donc, je raconte cette anecdote dans la conférence, comment j'ai découvert les Vénus. Je venais voir la conférence si vous voulez savoir. Et à la découverte de ces Vénus, en fait, j'explique comment ces Vénus sont apparues, en tout cas ce qu'on en sait aujourd'hui, et à quoi elles servaient, et ce qu'elles nous permettent d'avoir comme information sur la place des femmes dans la société préhistorique, notamment au moment du Paléolithique supérieur. Et donc oui, il y a ces Vénus, mais il y a aussi ce qu'on a retrouvé comme traces au niveau de l'art rupestre. Donc ça aussi j'explique un petit peu ce qu'on a retrouvé comme traces en fait sur des squelettes qui ont pu être analysés. Notamment pour des femmes qu'on a retrouvées avec des bijoux ou avec des traces sur les os qui signifiaient que probablement certaines chassaient. Enfin, voilà, donc j'explique un petit peu à partir des ouvrages, notamment de Patricia Cohen, si je dis bien son nom et son prénom, qui ont énormément produit de connaissances sur ce sujet-là.
Il me semble qu'on a découvert il y a assez peu de temps que probablement des femmes étaient des femmes très puissantes à cette époque-là, et on s'est toujours un peu dit que c'était probablement des hommes, et là il y a eu des découvertes comme quoi c'était peut-être des femmes chefs de communauté,
voilà. Ouais, tout à fait. Bah oui, en fait, il y a des hypothèses à certains endroits, hein, parce que là aussi, on ne pourra pas généraliser. Mais effectivement, il s'avère que à certains endroits d'Amérique du Nord, dans certaines communautés, il y avait une égalité, voire des formes de société matriarcale. Puis à d'autres endroits, les femmes étaient plutôt les esclaves des hommes déjà à cette époque. Donc en fait, moi, le but c'est pas de faire des généralités, c'est vraiment de parler de ce qui semblerait avéré à certains endroits, à certaines époques, vraiment en étant très vigilante, parce que de part effectivement l'éloignement temporel, on saura probablement jamais, mais en même temps, ce qu'on peut savoir aujourd'hui, oui, il y en a bien des traces, donc on peut faire des hypothèses concrètes scientifiques sur ce qui se retrouve encore au niveau des recherches archéologiques existantes.
Et cette conférence, tu l'as beaucoup joué ou c'est le début?
Alors, je l'ai joué pour l'instant une dizaine de fois. Ouais. Donc, c'est le début. Je l'ai écrite en 2020. Le confinement est repassé par là. Donc, je l'ai retravaillé là, début 2023. Et voilà, c'est encore un petit peu une période de rodage. Mais en tout cas, ce qui est joyeux pour moi, c'est d'en parler à des personnes qui sont intéressées par ces sujets. Et puis là, par exemple, en ce moment, c'est des établissements scolaires qui font appel à moi pour adapter cette conférence, par exemple, à des niveaux d'élèves entre 6e et la 3e. Donc, j'essaye aussi d'adapter mon propos aux différents publics qui s'y intéressent. Et c'est intéressant parce que voilà, jouer dans des lieux très diversifiés, et je suis toujours en recherche de lieux et de personnes à qui la proposer.
Là, pour la LEP, c'est adapté à partir de quel âge?
Alors, je dirais comme il y a beaucoup d'informations et qu'il y a des informations qui sont parfois délicates et sensibles, je recommande plutôt à partir de 10 ans, je dirais, l'âge justement d'entrée au collège, quoi.
D'accord.
10-11 ans. Donc après, il peut y avoir des personnes plus jeunes, hein, mais je dirais pour dans un souci de compréhension et d'appréhension de ce que je vais aborder, je recommanderais ça. Si c'est plus jeune, c'est possible. Mais, voilà.
Très bien. Et donc j'imagine que tu as des retours là, si tu l'as joué une dizaine de fois. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment les gens le vivent, ou enfin voilà, la vivent, cette conférence?
Bah ouais, c'est une super question. Là, je l'ai joué samedi le 11 novembre dans un tiers-lieu rural, Et en fait, les retours que j'ai eus, c'était que c'est une conférence d'utilité publique et que c'est vraiment important de partager cette parole, de partager ses connaissances, parce que l'intention reste quand même modeste, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un partage et un échange aussi avant tout, et notamment en fin de conférence gesticulée, j'ouvre un espace pour que les personnes qui ont vu la conférence me partagent aussi ce que ça fait résonner en elles. Hein. C'est aussi le sous-titre de cette conférence, qui serions-nous devenus si nous avions su, parce que je sens bien que moi, ça me transforme en fait dans ma vie, toutes ces connaissances que j'acquiers au fur et à mesure de ces recherches. Et donc, j'ai aussi envie de savoir ce que ça produit chez les personnes qui viennent la voir. Et parfois, j'ai même des retours. J'ai un petit livre d'or, donc les gens me laissent leurs coordonnées. Et il y a des personnes qui me réécrivent des fois des mois plus tard, ou que je recroise dans la rue et qui me disent « Ah, bah au fait, depuis que j'ai vu ta conférence, je me suis souvenue que je voulais devenir menuisière. Et j'avais oublié, mais en fait, c'est un dieu rêve et j'ai envie de le réaliser maintenant. Quoi. Je me sens capable. » Donc, il y a aussi une volonté pour moi de donner encore plus de pouvoir d'agir à travers ce temps de conférences et d'échanges.
Toi, ça te fait quoi quand t'entends ça, un peu que t'as participé à cette reprise de conscience-là et un peu peut-être ce changement de vie ?
Bah, j'ai envie de dire c'est mon meilleur salaire. Ouais. Après, je peux pas faire sans l'argent, mais... mais c'est ma plus grande joie en fait de me dire c'est de comprendre comment ça peut contribuer pour d'autres personnes et vraiment c'est hyper touchant en fait pour moi quand j'ai des retours comme ça de comprendre que par moment il peut y avoir juste une rencontre dans une vie qui peut la modifier complètement ou des fois ça va être la rencontre d'une autrice ou d'un auteur d'un ouvrage d'un film qui peut vraiment créer ce qu'on appelle en grec un kairos, donc c'est un moment de très fort de déclic, c'est pas comme je l'ai dit, d'électrochoc. Et des fois, même sans aller jusque-là, ça peut juste nous permettre de nous dire en fait, moi, dans ma vie, j'ai envie de faire encore plus ce truc-là, d'être encore plus libre, d'être encore plus créative, d'être encore plus artiste, ou peu importe ce qu'on a envie de développer. Et c'est pour ça que j'invite aussi des hommes à cette conférence, parce que j'ai aussi envie de savoir à eux ce que ça leur fait, en fait, d'entendre tout ça, parce qu'en fait, on est tous et toutes victimes de ces oublis historiques hein, qui sont faits malheureusement ou en tout cas qui sont le produit aussi d'une histoire donc qui nous arrive pas par hasard et ça je l'explique pendant la conférence mais pour moi oui c'est très important d'avoir des retours et de savoir ce que ça génère ce que ça produit cette transmission.
Super, merci beaucoup pour tout ça.
Avec plaisir Mélanie, avec plaisir de venir à Blois présenter ce travail.
Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou est-ce que on termine en écoutant une musique de ton choix ?
Eh bien, je terminerai en disant venez le 7 décembre à la LEP à 19h. Je serai ravie de vous rencontrer et d'échanger avec vous sur ce sujet de l'histoire cachée des femmes. Et je suis très contente aussi, qu'on écoute la musique que tu as préparée, qu'on a préparée ensemble, Mélanie.
Alors, qu'est-ce qu'on écoute ?
Eh bien, on pourrait écouter l'hymne des femmes, la version qui a été créée par un collectif de chanteuses en Alsace, une version que je trouve à la fois très belle et très touchante. Et vous entendrez en fait dans la première partie de cette chanson, « Nous qui sommes sans passé les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire ». Et je suis déjà... tout ému rien de dire ça, c'est-à-dire que, si nous avons une histoire, nous avons un passé, et il est temps de s'en ressaisir pour nous donner encore plus de force et de courage pour créer un aujourd'hui et un demain qui nous conviennent et qui nous ressemble et qui nous rassemble.
Merci beaucoup Julie.
Merci à toi aussi Mélanie, à toute l'équipe de la LEP.
Eh ben, on écoute Debout les femmes et puis on se voit le 7 décembre.
Oui, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Bonne soirée, à bientôt.
Merci, bonne soirée. Au revoir.
Au revoir.
Toi. Toi.
Moi.
Moi.
Elle.
Elle.
Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous...
Debout.